recevoir la parole de Dieu ce matin? Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que je suis prêt à partager la parole. Et le Seigneur est bon, il est vivant. Vous savez qu'à la vie comblée, on aime faire une déclaration de la foi parce qu'on croit fermement ce que la Bible nous enseigne à propos de la puissance de la langue, la puissance de notre foi. La Bible dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En fait, la Bible dit aussi que ce qu'on croit de notre cœur et ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplira aussi. Il y a un tas de versets qui parlent de cela. Et c'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Parce que ce matin, on va recevoir sa parole. Et sa parole va nous changer. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte pour prendre les notes. Il y a des versets là-dessus. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Sans exception. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu qui va être semée dans mon cœur et qui va porter du fruit. Merci Seigneur. Que ma vie sera changée de gloire en gloire dans ton image au nom de Jésus. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3. On va continuer notre série sur le sujet des citoyens du ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être citoyens du ciel ce matin? De savoir que le ciel, c'est une véritable place. C'est une vraie ville avec un véritable gouvernement. C'est pas une idée, c'est pas une philosophie, c'est pas un fable, c'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Jérusalem céleste existe. Aujourd'hui même, Jésus est assis à la droite du Père sur son trône. Amen. Et selon la parole de Dieu, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, enterré avec Jésus et ressuscité avec lui, et il nous a fait asseoir en lui à la droite de Dieu aussi. Jésus est la tête de l'Église, mais nous sommes le corps de Jésus-Christ. Est-ce que votre corps est attaché à votre tête ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une tête détachée? Est-ce qu'on a besoin de composer 911? Non. J'espère que non. Mais laissez-moi vous dire, il est impossible pour votre corps d'être en vie aujourd'hui sans être attaché à la tête. Et quand on parle à quelqu'un, on ne va pas parler à Donald, à sa tête. Oh, salut Donald, ça va bien? Et Henri, tu vas bien? Non? Quand on parle de son corps, quand on parle de sa tête, l'ensemble fait Donald dans le physique, n'est-ce pas? Et savez-vous, ce n'est pas différent dans l'esprit. Jésus est la tête de l'Église. Amen. Mais nous sommes appelés le corps de Jésus-Christ. Si la tête est assise dans les lieux célestes, et la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Essayez pas trop de comprendre cela avec votre cerveau humain, parce que c'est un peu difficile. Hein? Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. On peut être ici et là en même temps, dans un sens, spirituellement parlant, légalement parlant. J'ai déjà donné l'exemple du premier ministre d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée, femme de Dieu que nous connaissons a raconté cette histoire, qu'un jour, il était, je crois, si je ne me trompe pas, à Tel Aviv, il y avait une photo de lui-même que quelqu'un a apporté qui voulait avoir une signature, un autographe. Et il a signé Ariel Sharon à Jérusalem. Mais il était à Tel Aviv. Et les gens ont posé la question, quelqu'un, pas un juif, mais je pense que c'était une américaine, a posé la question, mais comment ça que vous avez signé Ariel Sharon à Jérusalem, mais vous n'êtes pas à Jérusalem, vous êtes à Tel Aviv. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Avec tout sérieux dans ses yeux, il a dit, « Je suis toujours à Jérusalem. » Hein? Et c'est quelque chose dans le cœur, dans les Juifs comprennent l'importance de cette ville. C'est une ville choisie par Dieu, pas par les hommes, mais par Dieu. Lisez votre Bible, c'est la place, c'est le lieu choisi par Dieu. Et pour son peuple, le peuple juif. Donc lui, dans son cœur, même s'il se promène dans les autres pays, dans son cœur, il est toujours à Jérusalem. Et vous savez, si c'est vrai pour un homme juif aujourd'hui, qui a quand même une connaissance de l'ancienne alliance, une connaissance de la parole de Dieu, combien plus nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les enfants d'Abraham, qui est le père de tous ceux qui croient, n'est-ce pas? Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui ne sommes pas les serviteurs de Dieu, mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu, on devrait avoir cette même mentalité que même si je suis sur la planète Terre, à Drummondville, dans mon cœur, je suis toujours à Jérusalem céleste. Je suis un citoyen du ciel. Je travaille pour le gouvernement du ciel. On va voir peut-être la semaine prochaine ou après, la semaine après, l'importance d'être un ambassadeur pour Jésus-Christ. Les ambassadeurs sont les ministres du rang le plus élevé qui sont employés par un prince ou par un État à la cour d'un autre prince ou d'un autre État. Pourquoi? Pour effectuer les affaires de son État. Et en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, je vis sur la planète Terre, mais je suis employé, on pourrait dire, par le gouvernement du ciel. Amen? Je marche ici sur la planète Terre, mais ma cité à moi, votre cité à vous, notre cité à nous, c'est dans les cieux. Et même si je suis à Drummondville, ou à Québec, ou à Trois-Rivières, ou si je suis ailleurs dans le monde, en Thaïlande, ou en Bolivie, ou peu importe, au Congo, on devrait toujours avoir le cœur à Jérusalem céleste. Bonne nouvelle, hein? Regardons. Philippiens chapitre 3. Et je crois que c'est dans vos notes aussi, encore cette semaine. On va le lire ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 17. Qui dit ceci, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Donc là, on voit encore une fois que ceux qui sont appelés les ennemis de la croix de Jésus-Christ, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent uniquement pour les passions et les plaisirs charnels et physiques. La Bible en parle, dit que dans les derniers jours, il y a des personnes qui vont être les aimeurs du plaisir et qui ne vont pas aimer Dieu. Est-ce que ça, c'est une bonne description de notre société aujourd'hui? Tout ce que les gens font, c'est pour avoir du plaisir. Et même, peu importe le prix, peu importe combien de personnes vont souffrir à cause de leur plaisir, ils vont avoir du fun, ils vont avoir du plaisir. Leur Dieu, c'est leur ventre, la chair. Il dit aussi que ce qui devrait être honteux, c'est la chose dans laquelle ils prennent gloire. Et vous savez-vous qu'il y a des personnes qui se vantent du péché aujourd'hui? Des personnes qui vont sortir de la garde-robe, comme on dit, et ils vont célébrer leur liberté de pécher et de violer les lois de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, hein? On parle de notre monde aujourd'hui. Mais une autre chose que la Bible dit à propos de ces personnes, c'est qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui tombent un peu dans cette même catégorie. Dans le sens que on peut passer des journées, des semaines, des mois ou même des années sans presque jamais penser à la réalité de l'éternité, sans penser à Jérusalem céleste, sans penser que si je suis sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Si je suis ici sur la terre, c'est pour effectuer les affaires de mon gouvernement céleste. Est-ce que vous êtes là ce matin? Hein? Vous n'êtes pas endormi, vous écoutez, oui? Parce que qu'est-ce que je dis? C'est important. Hein? Ce n'est pas un message qui est juste une théorie ou un message qui va donner des frissons, mais c'est un message qui va changer votre vie et qui va déterminer votre efficacité sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être efficaces sur la terre? Qui veut porter du fruit pour le royaume de Dieu? Qui veut arriver devant Jésus et entendre Jésus dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur » Qui veut entrer au ciel et avoir des grandes récompenses? Amen! Ce que vous faites étant dans votre corps, ici sur la terre, va déterminer votre niveau de vie au ciel. Ça, c'est biblique. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Lis 1 Corinthiens chapitre 3 si tu ne me le crois pas. Amen! Et ce qu'on fait sur la terre va déterminer la destinée éternelle, pas juste de nous, mais surtout des autres personnes dans notre entourage. Amen. Et moi, je veux que mes voisins passent l'éternité avec moi au ciel. Je veux que toute ma parenté passe l'éternité avec moi au ciel. Et vous? Je veux que une grande quantité des Drummondvillois et Drummondvilloises viennent au ciel avec nous. On parle de la réalité. La réalité de l'éternité. Il y a des personnes aujourd'hui que s'ils meurent aujourd'hui sans connaître Jésus-Christ, ils vont passer l'éternité à l'enfer, séparés d'avec Dieu, et Dieu ne veut pas, et je ne veux pas, et vous ne voulez pas non plus. Le contraire est vrai aussi. Si nous comprenons notre rôle comme citoyens du ciel ici sur la terre, comme ambassadeurs pour Jésus-Christ, nous allons arriver au ciel et on va se réjouir en sachant que telle et telle et telle et telle personne, eux autres, ils sont là parce que je réalisais que j'étais citoyen du ciel, même pendant mon séjour terrestre. Et ils sont là aujourd'hui au ciel avec nous pour éternité parce que nous avons mis en pratique le message qu'on a entendu le 14 août 2005 à la vie comblée. Amen? Je suis sérieux. Et c'est bon. Alléluia. Donc, pour qu'on vive comme les citoyens du ciel, on a déjà vu pendant quelques semaines, 2 Corinthiens chapitre 5, il y a plusieurs choses qu'on a soulignées, plusieurs attitudes que nous avons besoin de développer, plusieurs façons de vivre qu'il faut adopter pour pouvoir être efficace et afin de pouvoir faire la volonté du ciel ici sur la terre. Si nous sommes les citoyens du ciel, Jésus a dit de prier que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. On va le dire ensemble. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. On va le dire encore. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut pour ta vie doit se passer ici sur la terre. Et c'est ça ma prière pour moi-même, pour ma famille, pour cette église. Seigneur, que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme au ciel. Pour que cela arrive, ce n'est pas automatique. Est-ce que vous êtes d'accord? On a vu plusieurs choses déjà en 2 Corinthiens chapitre 5, et on va juste continuer ce matin. On va souligner un couple d'autres choses qui sont les éléments clés pour que la puissance de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent ici sur la terre, dans votre vie personnelle, comme au ciel. Donc, regardons encore notre texte ici, en 2 Corinthiens chapitre 5. On est rendu à verset 16, si tu veux aller, en 2 Corinthiens chapitre 5. Tout le monde dit, j'aime la parole de Dieu. On va voir encore comment vivre la volonté du ciel sur la terre. 2 Corinthiens 5, 16 dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être des nouvelles créatures ce matin? Mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment important. On a vu verset 15 la semaine passée qui disait que ceux qui vivent ne devraient vivre plus pour eux-mêmes, mais pour Jésus-Christ. On ne devrait plus mener à notre propre gré une petite vie égoïste, mais il faut vivre pour Jésus. Et là, on voit une autre clé indispensable pour vivre une vie de qualité sur la terre, une vie spirituelle sur la terre et une vie qui va porter du fruit pour le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on va vivre comme des citoyens du ciel sur la terre? Il ne faut plus connaître les gens selon la chair. Et il ne faut plus connaître Jésus selon la chair non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous passez vos jours en regardant vos frères et vos sœurs juste comme des êtres humains, des êtres naturels, les hommes et les femmes naturelles, si vous avez l'idée religieuse que, ben, vous savez que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la grâce. Est-ce que c'est vrai? Non. Nous étions des pécheurs, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous étions tous morts dans nos offenses, morts dans nos péchés. Mais il ne faut pas oublier le « mais » dans ces versets. Mais Dieu nous a ramenés à la vie. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a sauvés. Et je ne suis plus un pécheur maintenant, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, je ne suis plus l'homme que j'étais avant. J'étais autrefois un pécheur, maintenant je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle création, une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avant était Saul de Tarse, qui a persécuté l'Église, qui a ravagé l'Église, qui a aidé à tuer Étienne et lapider Étienne, il était capable d'écrire en 2 Corinthiens chapitre 7 que nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Et des personnes qui auraient pu répondre, « Mais Paul, tu es menteur parce que tu as fait tort à beaucoup de personnes. Tu as mis des personnes en prison. Tu as tué des personnes. » Non, il savait, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, encore nous voyons l'importance que si on va vivre ici sur la terre, comme les citoyens du ciel, il faut que nous ayons la bonne attitude envers soi-même et envers nos frères et nos sœurs. Il faut que nous ayons la bonne perception. Il ne faut pas connaître les gens selon la chair, il faut les connaître selon l'esprit. Parce que si on connaît les personnes selon la chair, on va bloquer la puissance du ciel dans leur vie. Et la puissance miraculeuse qui est supposée d'opérer dans leur vie ne va pas opérer. Les miracles que les personnes sont appelées à faire ne seront pas opérés. Les œuvres surnaturelles que les personnes de cette église sont supposées et appelées à faire ne vont jamais se manifester si on se connaît seulement selon la chair. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, sans exception, chacun de vous, vous êtes son ouvrage. Vous êtes créé en Jésus-Christ. Une nouvelle création, créée en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que vous les pratiquiez. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a créées pour vous à accomplir. Il y a des projets que Dieu a formés sur chacun de vous. Des projets indispensables, importants, que si vous ne faites pas qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, il y a des personnes qui peut-être vont manquer le ciel. Pas juste les Drummondvillois, les Drummondvilloises non plus, parce que cette église est appelée à faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Il y a des œuvres que vous êtes supposés de faire. Il y a quelques-uns de vous, vous n'allez jamais quitter la province du Québec, mais vous allez faire un impact à l'autre côté du monde. Parce que vous accomplissez vos œuvres qui sont destinées avant la fondation du monde. Mais pour que ces œuvres se réalisent, pour que cette vision s'accomplisse, il faut qu'on se connaisse dans l'esprit et non pas selon la chair. Je vais vous donner un bon exemple de cela dans la parole de Dieu, avec quelqu'un pour qui on devrait avoir beaucoup de respect. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'amour et du respect pour lui? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était déjà Dieu, n'est-ce pas? Car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais la parole s'est fait chair. C'est-à-dire que Dieu le Fils, qui a toujours été Dieu le Fils, qui n'a jamais eu un commencement comme Dieu le Fils, il a pris une décision, hein, vraiment de sa propre volonté, Parce que c'était le conseil de Dieu avant la fondation du monde de venir ici sur la terre. Et il est né d'une vierge, il est devenu chair, il est né sur la terre comme un homme. 100% homme, il a mis à côté sa gloire, il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, et quand Jésus fut né, et quand Jésus était dans l'étable, il n'était pas né comme le Fils de Dieu, il était né comme le Fils de l'homme. Et c'est-à-dire que Jésus, en grandissant, n'a jamais fait un seul miracle. Il y a des personnes qui vont enseigner, la religion vous enseigne que Jésus a ressuscité des oiseaux d'entre les morts, etc. Mais c'est faux. On sait que c'est faux parce que la Bible dit clairement que le premier miracle que Jésus a fait, c'était où? Mariage de Canaan. C'est quoi que Jésus a fait? Il a changé l'eau en vin. Et on sait, sans aucune doute, parce que la Bible dit clairement, c'est le premier miracle qu'il a fait. Mais quand est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela seulement après avoir été baptisé par son cousin Jean dans le Jourdain, et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme corporelle, et après cela, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est là où il a commencé son miracle. C'est là où il a commencé son ministère ici sur la terre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Jésus nous donne un exemple pour nous. Parce que Jésus, la Bible dit, avait l'Esprit Saint sur lui sans mesure. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus avait l'Esprit Saint sur lui sans mesure. Il allait de lieu en lieu et à chaque place où il y avait des malades, il fut guéri. À chaque place où il y avait des miracles qui ont été accomplis, c'était toujours avec la puissance de l'Esprit Saint. Jésus n'a pas fait les miracles parce qu'il était le Fils de Dieu, il a fait les miracles parce qu'il était oint de l'Esprit Saint. Si on parle bibliquement, même Jésus, quand il est allé dans la synagogue, il a lu Ésaïe, hein, il a lu le passage que l'Esprit est sur moi, il m'a oint. Donc il savait, à partir de ce moment-là, qu'il était oint. La présence de l'Esprit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit de l'Éternel des armées. Je dis cela pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes revêtus et on peut être revêtus de la même puissance d'en haut. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses, mais attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le même Esprit Saint, c'est pas un esprit similaire. Mais exactement le même esprit qui était sur Jésus est sur nous pour faire exactement les mêmes œuvres. Est-ce que vous êtes là? Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, ils feront aussi et encore des plus grandes œuvres car je vais au Père. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas aujourd'hui? On les voit à l'occasion. On les voit de plus en plus. Mais on devrait les voir sur une base régulière. Amen. Moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont faim et soif de voir davantage des miracles, davantage une manifestation de la puissance de Dieu? Comment est-ce que Dieu va faire ses œuvres? À travers vous. Pas à travers le pasteur seulement, pas à travers juste les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants, mais notre rôle, c'est de vous équiper pour faire l'œuvre du ministère. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. N'est-ce pas? Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont être capables de prendre les serpents. Pas par exprès, mais comme Paul a fait sur l'île de Malte, quand il a mis du bois sous le feu, le vipère est sorti du bois et l'a mordu. Tout le monde a dit, oh, il va mourir. C'était sûrement un meurtrier qui s'est échappé. Mais quand il n'est pas mort, ils ont dit, oh, c'est un Dieu. On ne faut jamais se fier sur les opinions des hommes. Hein? Mais là, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on voyait dans sa vie, qu'est-ce que Jésus a dit? Ils vont prendre les serpents, ils vont boire des breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça, c'est des œuvres que nous sommes supposés de faire. Amen? Pas moi seulement, mais nous, tout le monde dit nous. Mais pourquoi est-ce que cette puissance de l'Esprit n'est pas une manifestation. Pourquoi est-ce qu'on voit moins souvent aujourd'hui ces choses? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons primordiales, c'est qu'est-ce que Paul dit ici. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Parce que regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. En Marc, chapitre 6, verset 1. Tout le monde est là? Marc 6, 1? Et n'oubliez pas que Jésus est au sein de l'Esprit. N'oubliez pas que n'importe, presque toutes les places où Jésus va, il y a des grands miracles qui sont accomplis. Il y a des personnes guéries. Il y a des personnes nourries surnaturellement. Toutes sortes de choses qui se passent dans son ministère. Mais là, verset 1 de Marc 6, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Et qui lui a été donné? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Regarde bien, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est pas méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Est-ce que tu as lu qu'est-ce qu'on a dit? Il ne put. C'est pas marqué qu'il n'a pas voulu. Il ne put faire là aucun miracle. Tout le monde dit aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc là, on voit beaucoup de choses. Même si la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles, il y avait quand même des personnes guéries par l'imposition des mains. Aujourd'hui, on ferait cela et on verrait des personnes avec des maladies mineures guéries par l'imposition des mains. On dirait, oh, on a eu un grand miracle. Mais dans le livre de Dieu, dans la pensée de Dieu, ça, c'est même pas un grand miracle. Ça, c'est comme l'ordinaire de tous les jours. Imaginez qu'est-ce que Dieu veut faire. Imaginez la grandeur des œuvres que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Imaginez quel genre de miracle Dieu veut produire à travers vos mains. Je le vois dans vos yeux. C'est pas ça que j'ai appris. J'ai jamais entendu cela. J'ai de la misère. Mais c'est pourquoi la Bible dit, hein, ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La parole est en train de renouveler votre intelligence. Il faut que vous pensiez d'une autre façon. Il faut que vous vous voyez comme Dieu vous voit. Dieu ne vous voit pas comme un petit rien du tout, un bon à rien. Il vous voit comme enfant de Dieu. Il vous voit comme quelqu'un au sein de l'Esprit Saint. Il vous voit comme quelqu'un qui peut faire des grandes choses avec son aide. Amen. Et il dit, sauf que si qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Donc on voit, pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Moi je crois, c'est mon opinion, qu'il se promenait en enseignant parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si les gens ne croient pas, je vais juste continuer à prêcher et à enseigner la parole. Et plus je prêche, plus ils vont croire. Hein? Mais là, on voit que la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas faire des miracles, des grands miracles, dans sa propre patrie, c'était à cause de leur incrédulité. Et aujourd'hui, je vous propose que si Dieu ne peut pas faire des miracles à travers vos mains, c'est le même problème. C'est un problème d'incrédulité. Des fois, c'est un manque de foi chez vous ou chez nous. Des fois, c'est un manque de foi chez l'autre. Hein? Il n'y avait pas un manque de foi chez Jésus cette fois-ci. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus savait qu'est-ce qu'il était capable de faire. Jésus savait qui il était. Jésus savait et connaissait l'onction qui lui a été donnée. Et Jésus connaissait sa mission. Jésus connaissait son autorité. Il connaissait sa place. Et il n'avait pas d'excuses, pas d'hésitation, il ne manquait pas d'hardiesse. Vous êtes d'accord? Mais c'est les autres qui ont manqué la foi. Les autres qui ont manqué la confiance. Et j'aimerais juste dire ce matin que c'est souvent le cas dans l'Église. Un prophète n'est pas méprisé sauf dans sa propre patrie. Ça devrait pas être le cas, mais des fois, c'est la même chose dans les églises locales. Des ministères qui sont destinés à faire de grandes choses, souvent sont plus efficaces ailleurs que dans leur propre église, et ça devrait pas être le cas. Et c'est pas obligatoire que ça soit le cas. Et à la vie comblée, ça serait pas le cas. Amen. Pourquoi en pratique la parole, comme Paul a dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et même si on a connu Jésus selon la chair, nous ne connaissons plus de cette manière. Maintenant, on va connaître Jésus dans l'esprit. Et on va se connaître dans l'esprit aussi. Le problème, c'est que les gens de sa propre ville le connaissaient trop. Et quand il est venu, ils étaient offensés parce que, on a vu ce petit garçon grandir au milieu de nous. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. C'est un charpentier. Pour qui est-ce qu'il se prend? C'est pas un docteur de la loi, c'est pas un pharisien. Pour qui est-ce qu'il se prend? Et combien de fois, même dans les églises, il y a des personnes, oh, mais je connais cette personne depuis des années. C'est un tel, c'est un ceci, c'est un cela. Cette personne ne pourrait jamais faire grand chose. Hein? Est-ce que vous êtes là ce matin? Le message est important parce que vous êtes appelés de Dieu. Vous avez quelque chose à faire et c'est notre responsabilité de s'entraider et de s'encourager et jamais bloquer le plan de Dieu, jamais mettre un bâton dans la roue, au contraire, de s'exhorter réciproquement, hein, de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est l'habitude de plusieurs. Mais il faut qu'on s'exhorte, il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on s'entraide. Amen? En fait, il y a trois choses que je crois qu'on doit faire pour qu'on puisse connaître les personnes selon l'esprit et non selon la chair. Trois choses qu'on va souligner aujourd'hui. Premièrement, et ça va nous aider énormément. Premièrement, ayez de la révérence pour tous les citoyens du ciel. Ayez de la, j'ai dit, révérence. Tout le monde dit révérence. Des fois, on est trop familier. On est trop familier avec le pasteur, avec les autres. On est trop familier même avec nos frères et nos sœurs. Quand je dis trop familier, je ne dis pas qu'il ne faut pas être amical ou rempli d'amour, mais il ne faut jamais oublier que chaque enfant de Dieu est un citoyen du ciel. Et en tant que citoyen du ciel, chaque enfant a des droits. Chaque enfant de Dieu est protégé par le gouvernement du ciel et aimé par le roi du ciel. Amen? Et je lisais cela l'autre jour, en Actes chapitre 22, à propos de l'apôtre Paul. Et on peut lire son expérience dans le naturel et prendre un parallèle dans l'esprit. Mais vous savez que quand Paul, une des fois, entre plusieurs qui fut arrêté, en Actes chapitre 22, verset 25, il dit que lorsqu'on l'a exposé au fouet, ils avaient l'intention de le fouetter, Paul dit aux centeniers qui étaient présents, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain? » Donc, vois-tu, il fait appel à sa citoyenneté. Il était un citoyen de Rome. Qui n'est pas même condamné, à ces mots, le centenier alla vers le tribune pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain! » Et le tribune, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, » répondit-il. Le tribune reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribune, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Paul, il était conscient de sa citoyenneté. Et il savait que le monde, à l'époque, avait du respect pour les citoyens romains.
Quelqu'un qui est citoyen romain avait des droits, avait des protections légales. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça a rapport à votre vie de tous les jours à Drummondville. On ne parle pas de Paul dans le Moyen-Orient, on parle de vous aujourd'hui à Drummondville. Aujourd'hui, il y a des personnes dans notre entourage et assis à côté de vous, il y a des citoyens du ciel. Et on devrait avoir du respect et de la révérence pour eux. On devrait être dans la crainte avant de faire quoi que ce soit qui pourrait blesser un concitoyen. Amen? C'est comme, oh, wow! Et eux autres, ils devaient être dans la crainte. Pourquoi? Ils savaient, si je touche un citoyen romain, si je vais faire fouetter un citoyen romain, c'est moi qui vais avoir un compte à rendre. Et c'est la même chose dans l'Église. Si je fais tort à un autre citoyen du ciel, si je critique avec ma langue un autre citoyen du ciel, si je parle dans le dos d'un autre citoyen du ciel, si je n'ai pas de respect pour eux, je vais avoir un compte à rendre à Dieu. Amen? C'est vraiment quelque chose, hein? Parce qu'on voit que Paul, il a fait appel à sa citoyenneté. Je pense que des fois, on a besoin de faire la même chose avec le diable. On devrait rappeler au diable, « Diable, tu sais quoi? Je suis citoyen. Tu veux me faire du trouble? Tu veux jouer avec moi? Je suis citoyen du ciel. Laisse-moi vous dire. Et au nom de Jésus, je te dis, enlève tes pattes. Laisse-moi te dire, les démons vont avoir peur. Les démons vont être dans la crainte. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qu'il est un citoyen du ciel, qu'il est protégé. Jésus savait qu'il était capable d'appeler et avoir 10 000 anges venir à son secours. Il n'a pas fait, mais il aurait pu. Pourquoi? Parce qu'il est le roi du ciel. Mais nous sommes les princes du ciel, dans un sens. Jésus est le prince de la paix, mais nous sommes dans la famille royale. Et si on sait qui nous sommes, c'est vraiment, vraiment quelque chose à penser. Et on a ce droit, pas comme n'importe qui, mais nous avons ce droit par la naissance, par la nouvelle naissance. Amen. Donc, il faut avoir de la révérence pour les citoyens du ciel. 1 Pierre chapitre 3 nous montre le même principe que quand ça parle des maris avec leurs femmes. Il dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. » Tout le monde dit « honorez-les. » Comme devant aussi hériter avec eux de la grâce de la vie. Dans quelques versions, c'est marqué en sachant que vous êtes des co-héritiers avec eux de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On voit ici le principe qu'un mari devrait avoir de la révérence pour son épouse. Ça, c'est pas mon épouse seulement, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est un citoyen du ciel. Et elle est héritière de Dieu et co-héritière de Jésus-Christ. Et elle va hériter avec moi la grâce de la vie. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir de l'honneur. Les paroles que je prononce, les gestes que je fais devraient être les gestes et les paroles de respect et d'amour. Mais savez-vous que quand on agit de même, ça donne place à l'esprit et l'onction qui est dans la vie de la personne de se manifester. Les gens ont dit, « Oh, ben, pour qui est-ce qu'il se prend en parlant de Jésus? » Ils ne pouvaient pas faire des grands miracles parce qu'ils n'ont pas eu de respect pour Jésus. Ils n'ont pas honoré le don de Dieu. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est d'avoir de la révérence. Faisons attention avec les enfants de Dieu. Faisons attention avant de fouetter un citoyen du ciel. Pour qui est-ce que vous vous prenez, hein? De fouetter un citoyen du ciel avec votre langue. Je sais qu'il n'y a personne ici qui a besoin de cela. Hein? Ça, c'est pour notre Église. Mais si ça vous va, portez-le. Hein? Alléluia. Deuxième chose qu'on peut faire, que les personnes dans la patrie de Jésus n'ont pas fait, c'est qu'on peut tirer, ce n'est pas la façon de l'exprimer en français, peut-être comme il faut, mais numéro 2 dans vos notes, c'est tirer sur le don qui se trouve en chacun. Quand je dis de tirer, c'est-à-dire qu'on a besoin de reconnaître qu'il y a un don à l'intérieur de Daniel, il y a un don en Emilien. Et j'ai besoin, par la foi, pas juste voir un corps physique, pas juste voir un homme naturel, mais de voir, ça c'est mon frère. Il est né de Dieu, il est né d'en haut. Il est citoyen du ciel. Il y a quelque chose en lui dont nous avons besoin, dont j'ai besoin. Donc, je vais saisir par la foi ce don. Et je vais tirer sur ce don. Je vais faire sortir ce don. Amen. Comme Jésus, il est arrivé, au lieu de dire, « Mais n'est-ce pas le charpentier? » Ils auraient dû reconnaître, « N'est-ce pas le Fils de Dieu qui est venu dans la chair? N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas celui qui est loin? N'est-ce pas loin d'Israël? Hey, je veux recevoir. » Comme faisait, quelle différence entre les gens de sa propre ville et la femme atteinte d'une perte de sang? La femme atteinte d'une perte de sang a dit, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je vais guérir. » Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il y avait une puissance qui coulait en lui. Elle savait que si seulement je peux tirer sur le bord de son vêtement, je vais pouvoir prendre cette onction qui est en lui, ça va entrer à moi et ça va chasser ma maladie. Même chose pour moi en tant que pasteur. Quand je viens le dimanche matin, venez pas en disant, « Mais qu'est-ce que Ken va dire ce matin? » Ken n'a pas grand-chose à dire. Mais pasteur Ken Taylor, qui est appelé de Dieu d'être pasteur de la vie comblée, qui a reçu une onction de l'Esprit Saint, exactement le même esprit, pas un esprit semblable. Ce n'est pas un contrefait, hein? Mais c'est le même Saint-Esprit. Et ce n'est pas orgueilleux pour moi de dire que j'ai une mesure de la même esprit, du même Esprit Saint et de la même onction qui était sur Jésus, j'ai reçu une mesure de la même onction. Et c'est sur moi. Et cette onction qui est sur moi, si vous saisissez cette onction, vous tirez sur cette onction va couler davantage. Donc, si vous arrivez en disant, « Aujourd'hui, Père, je te remercie que tu as placé un pasteur dans notre Église qui est oint du même Saint-Esprit dont tu as oint Jésus. Et aujourd'hui, je vais recevoir de cette onction les choses dont j'ai besoin. » Amen. Pas juste avec le pasteur. Avec les musiciens qui sont sur l'estrade, on dit, « Merci Seigneur, que la même onction qui était sur les psalmistes, on voit dans l'Ancien Testament, la main de Dieu qui est descendue sur David quand il jouait la harpe, la même esprit, même onction, même puissance, une mesure. Peut-être pas dans la même mesure, peut-être pas dans la même façon, on a beaucoup de variétés, mais il y a quand même le même Esprit Saint. » Sur les musiciens aujourd'hui. On ne veut pas juste chanter les chants. On veut adorer en esprit et en vérité. On veut, Seigneur, que les musiciens prophétisent sur les instruments. Vous savez que souvent, quand dans l'Ancien Testament, on voit que quand les musiciens commençaient à jouer, la main de l'Éternel venait sur les prophètes et ils ont prophétisé. Amen. Quand les personnes sont avec les bébés dans la pouponnière, les personnes qui sont dans la porte, peu importe qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites, il y a une onction pour votre fonction. Tout le monde dit, j'ai une onction pour ma fonction. Et si on est capable dans l'esprit de tirer et d'en profiter de cette onction, on va faire en sorte que l'onction se manifeste et se multiplie. Amen. Alléluia. 1 Pierre 4, 10 dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il s'assoie comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et finalement, dans les dernières quelques minutes, numéro 3 dans vos notes. Il faut pas seulement respecter et avoir de la révérence pour les citoyens du ciel, pas juste tirer sur les dons qui sont en eux, mais il faut apprendre à enlever les limites. Tout le monde dit enlever les limites. Savez-vous que vous pouvez mettre des limites sur Dieu dans votre vie? Vous pouvez limiter la puissance de Dieu dans votre vie. Vous pouvez limiter les bénédictions dans votre vie. Comment? Par vos attitudes, par vos actions, par vos paroles. Les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, ils ont limité Dieu. Et Dieu n'était pas trop content parce que Dieu voulait les bénir. Mais eux autres ont mis les limites. Vous savez que c'est la même chose. On peut limiter le ministère de quelqu'un d'autre dans le sens, comme ils ont fait avec Jésus, ils ne pouvaient pas faire des grands miracles, ils ont mis des limites. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Regardons trois choses. Premièrement, ne regardez pas leur capacité naturel. On a un gros problème, c'est que souvent on va regarder les personnes et on regarde leur capacité naturelle. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Comme eux autres, on dit, mais n'est-ce pas le charpentier? Comment est-ce qu'un charpentier peut venir nous enseigner? Hein? Ils ont fait la même chose, ils étaient étonnés avec les apôtres. Ils ont dit, ce sont des hommes qui ne sont pas instruits, mais ils ont reconnu que c'était des hommes qui ont été avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé avec assurance. Donc là, il ne faut pas limiter qu'est-ce que les gens peuvent faire en regardant trop à leur capacité naturelle. Je peux vous donner un témoignage, même, c'est presque drôle, une conversation que mon oncle a eue avec ma tante une fois. Je sais que ça ne lui dérangerait pas pour moi de vous raconter l'histoire. On recule peut-être 22 ans, 21, 22 ans. Mon oncle est contracteur, entrepreneur, contracteur général. Il travaille dans la construction depuis toute sa vie. Et il aime le Seigneur, mais au moment donné, il avait comme une lutte, comme il ne se sentait pas vraiment utile dans le royaume de Dieu. C'est comme il ne se sentait pas vraiment utile dans l'Église. Il ne pensait pas pouvoir faire grand-chose. Il parlait avec ma tante, il disait, mais tu sais quoi? Tu sais, mais Dieu ne peut pas utiliser un simple charpentier. Il était tout sincère. Il y a quelqu'un qui trouve ses noms, là. Mais imaginez, hein? Jésus était quoi dans le naturel? Charpentier. Mais là, mon oncle, il disait, mais Dieu ne peut... Mais il était vraiment frustré. Mais tu sais, Dieu, il ne peut pas utiliser un simple charpentier. Et ma tante commençait à rire, et puis tout à coup, il commençait à rire. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Mais allumé, ben, bien sûr, je peux utiliser un charpentier. Amen. Et si Dieu a trouvé bon de faire en sorte que Jésus grandit comme charpentier, je pense qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Mais regardons qu'est-ce que la Bible dit, hein? 2 Corinthiens 3. Parce que des fois, on va limiter l'onction dans les autres, mais des fois, on va limiter l'onction dans notre propre vie. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tout le monde dit, ma capacité vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas une chose future, c'est une chose pour le présent. Dieu m'a rendu capable. Et vous êtes capable de faire votre ministère, mais je ne suis pas capable de prêcher. Vous n'êtes peut-être pas appelé à prêcher, mais vous êtes appelé à faire autre chose que je ne peux pas faire. Et ensemble, hein? Je suis content d'avoir des poumons, et vous? C'est quoi qui est plus important? Mes poumons? Ou votre nez, votre bouche. Imaginez, hein? Fermez votre nez, fermez votre bouche, scellez votre nez, votre bouche avec duct tape. Et puis parle-moi-en, hein, de combien vos poumons sont importants. Vos poumons ne peuvent pas fonctionner à moins que votre bouche et votre nez le permettent de fonctionner. Et dans le corps de Christ, c'est souvent comme ça. Souvent, on peut faire un blocage parce qu'on voit une personne et on se dit, bon, ça c'est Joe Blow, hein? Je le connais. Joe Blow, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il ne peut pas faire grand-chose. Mais la réalité, c'est que si Joe Blow ne fait pas sa job, toi, tu ne vas pas pouvoir faire ta job non plus. Arrêtons de se regarder dans la naturelle et cherchons à découvrir les dons, les capacités surnaturelles et spirituelles. Amen. On pourrait faire beaucoup plus là-dessus, mais on va arrêter là. Ne regardez pas leur position sociale. Hein? Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Trop des chrétiens même vont dire, mais moi, tu sais, j'ai jamais fait l'école biblique, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis pas une personne avec beaucoup d'éducation. Je viens pas d'un milieu riche. Je viens d'un rang de société qui était plus ou moins diminué. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez tout faire. Vous êtes un candidat idéal pour l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Amen. Les gens ne vont pas dire, oh, mais lui, il a fait ça parce qu'il a fait telle école biblique, ou parce qu'il a eu une telle éducation, ou parce qu'il vient d'une telle famille, ou parce que. Ils vont dire, oh, il a fait cela parce que Jésus est vivant et vit en lui. Amen. Donc, enlevons les limites. Regardez pas les capacités naturelles, regardez pas la position sociale, on est tous dans la même famille. Il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni pauvre, ni riche dans le fond. Amen. On est tous un en Jésus-Christ. Et finalement, ne regardez pas leur passé. Si vous voulez voir et savoir la chose qui peut nuire une église plus que toute autre chose, c'est le passé des gens dans l'église. Ça va nuire parce que les personnes, les individus ont de la misère à se pardonner soi-même et d'aller de l'avant. Et des fois, malheureusement, nous avons de la difficulté à laisser le passé disparaître chez les autres. Et parce qu'on ne laisse pas le passé disparaître, on ne donne pas la place à la personne de manifester son ministère. C'est vrai, n'est-ce pas? Et regardons bien, dernier verset qu'on va lire, Actes 9, 26, pensez à cela. Saul vient d'être sauvé, veut se rejoindre avec les autres croyants. Mais lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient. Et on peut comprendre cela, n'est-ce pas? Ne croyant pas qu'il fut un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Je pense qu'on a besoin de plus des Barnabas dans l'Église. Les gens qui peuvent aller et dire, ben écoute, c'est, donne-lui une chance. Oui, il a fait telle chose dans le passé, mais il est une nouvelle créature. Équilibre. Si la personne ne s'est pas repentie, c'est notre histoire. Si vous êtes en train de vivre comme un pécheur, on a raison d'être un peu méfiant. Amen. Mais si vous vous êtes repenti, si vous aimez le Seigneur, si vous faites du progrès dans le Seigneur, on a une responsabilité en tant qu'Église d'oublier le passé des gens et de dire ça c'est une nouvelle création et de lui donner la chance. Et je pense que je l'ai même mis dans vos notes ici, comment est-ce que je l'ai dit? Accorder aux autres la chance de changer. J'ai vu ça dans les couples souvent. Souvent dans les couples, il y a des problèmes conjugaux. Une femme ne laisse jamais son mari oublier les problèmes du passé. Le gars fait du progrès et pendant X mois, X années, il n'a jamais eu le même problème, mais ça revient toujours, ça revient toujours, ça revient toujours. Elle ne laisse pas la chance à son mari de changer. Et tout ce qu'elle fait, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Il ne change jamais, il ne change jamais. Il est temps, il est aidé. Et ce n'est pas juste les femmes qui font ça, c'est les hommes aussi. Juste pour que... Oui, je voyais que les hommes étaient... Ah oui, oui. Hein, mes hommes, pasteur, mes hommes. Mes hommes, hein, vas-y fort. Non. Des fois, c'est monsieur que... Vous ne laissez pas votre femme oublier son passé non plus. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il faut donner la chance aux gens de changer. Et combien de fois j'ai vu... J'ai vu des blocages dans l'Église parce que on a de la misère à croire qu'une telle personne qui autrefois faisait une telle chose pourrait être vraiment utilisée par Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient sur la personne pour prophétiser et les personnes c'est comme je sais pas. Lui? Non. Et on fait un blocage. Encore équilibre. Je ne dis pas qu'on peut vivre comme n'importe comment et faire n'importe quoi et avoir l'Esprit de Dieu en manifestation chez nous. Dieu cherche les vaisseaux d'honneur qui sont propres et utiles pour le maître. Mais qu'est-ce qu'on a besoin dans cette Église? C'est d'enlever les limites, de ne pas regarder les capacités naturelles, mais de savoir que c'est Dieu qui l'a rendu capable. Pas regarder l'arrière-plan social et dire, mais lui, dans le fond, non, Dieu peut choisir les choses folles pour confondre la sagesse des hommes. Et pas regarder le passé en disant, mais tu sais, non, tel a fait, Non. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et nous avons tous un passé, n'est-ce pas? Si je vous montrerai un film de toute ma vie, de tous les péchés de mon passé quand j'étais un enfant, peut-être vous direz, oh, vous ne serez pas trop content de m'écouter ce matin. Si je prendrais le film de votre vie, on le ferait passer à l'écran. Hein? Arrêtons de passer le film du passé et commençons à faire rouler le film de la vie nouvelle dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre parler. Amen. Donnons la place aux gens de changer. Parlons avec amour, avec encouragement, en exhortant les gens à prendre leur place et à manifester la gloire de Dieu. Car nous sommes les citoyens du ciel. Et le ciel a besoin de se manifester sur la terre. Mettons pas les bâtons dans la roue. Amen. Merci Père, au nom de Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Si on peut avoir Jean-Charles au piano, on remercie le Seigneur pour le don qui est en Jean-Charles, n'est-ce pas? C'est un don. Mais son don n'est pas plus important que votre don. Mon don n'est pas plus important que votre don. Les poumons ne sont pas plus importants que la bouche et le nez. Avec tous les yeux fermés, Père Céleste, nous t'aimons. Nous te remercions. Car nous désirons voir ta gloire dans cette Église. Nous voulons accomplir les œuvres auxquelles nous sommes appelés. Nous voulons voir ton Esprit Saint se manifester. Et Seigneur, on sait qu'on a besoin d'avoir de la révérence pour chaque citoyen du ciel, de marcher même dans la crainte de Dieu par rapport à eux. On a besoin de reconnaître et de tirer sur le don qui est en eux, de recevoir avec un cœur assoiffé l'onction que tu as placée en chacun de nous. Et nous avons besoin d'enlever toutes les limites, Seigneur. De ne pas regarder à l'homme naturel, à la capacité naturelle. De ne pas regarder juste à la position sociale. De ne pas regarder non plus au passé. Mais d'enlever les limites et donner la place pour les gens de changer et de devenir ce que vous les appelez à devenir. Père, au nom de Jésus, merci. Car je crois que tu veux susciter un peuple puissant dans cette Église. Je crois que assis devant moi ce matin, il y a des héros de la foi. Il y a des personnes assises dans les rangs qui vont faire les exploits. On ne sera pas jaloux, au contraire, on sera content. Père, au nom de Jésus, merci. Juste avec tous les yeux fermés, à chaque dimanche, on a pris un engagement, en fait, de donner une occasion pour ceux et celles qui viennent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, de donner leur vie à Jésus et d'être nés de nouveau. Et si vous êtes ici ce matin, vous dites, « Pasteur, je crois qu'est-ce que vous dites. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. » Et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais si je suis honnête, pasteur, je n'ai pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Je ne sais pas à 100% si je suis sauvé. Je n'ai pas l'assurance d'avoir une place réservée pour moi au ciel et que j'ai des doutes si je suis vraiment citoyen du ciel et que mon nom est dans le livre de vie. Si c'est le cas aujourd'hui, on peut prier, on peut faire ce que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, hein, Seigneur c'est un maître, c'est-à-dire que tu vas vivre pour lui le restant de ta vie, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur va faire de toi une nouvelle création. Ton nom sera gardé dans le livre de vie au ciel. Tu vas être un citoyen du ciel à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec tous les yeux fermés qui lèverait la main en disant, oui, c'est moi, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a une personne même qui a besoin? Ne quitte pas ce lieu sans connaître Jésus, sans savoir que tu es citoyen du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste lever la main? Sinon, peut-être tout le monde ici est déjà né de nouveau. J'espère que c'est le cas. Et j'aimerais qu'on se lève debout, on va chanter.